Vous écoutez
RMC. RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
On s'est de retour dans les grandes gueules du sport en direct du stade Charletti pour le record du monde RMC. Justement, nous allons faire un point sur ce record du monde avec Pierre Thévenet. Pierre, où en est-on ?
Eh bien, ça va toujours très bien, on l'a battu. Je vous le rappelle, ce record du monde, 365 km parcourus, toujours cette barre des 410 km visée désormais. On va approcher tout doucement des 1000 tours de piste parcourus. À l'instant, Jérôme Bretagne vient de faire deux tours à fond à plus de 17 km/h de moyenne. Donc ça continue à courir très bien. Le soleil se lève, ça tape fort sur le stade Charletti. Tout ça sous l'œil attentif d'Anouk de Timari, juge officiel du Guinness World Record, qui évidemment veille à ce que tout se fasse évidemment dans les règles. Et derrière, on a encore des gros coureurs qui arrive la team Christelle Donnet, championne d'Europe du marathon en 2014, et la team RMC avec Johan Durand, champion de France du semi-marathon en 2021. On va le plus possible faire augmenter ce record pour qu'il soit absolument imbattable. 21h08 de course ici à Charletti, 914 tours de piste réalisés.
Et la juge sera à notre micro d'ailleurs dans quelques instants. Restez bien avec nous sur RMC. Oui. 17 km/h de moyenne pour Jérôme Bretagne.
C'est pas mal.
Je pense que tu as mal vu cette course. En tout cas, Jérôme Bretagne est avec nous dans les grandes gueules du sport ce matin. Salut Jérôme.
Oui, bonjour à tous.
17 km/h.
17,5 plutôt, ça serait bien d'être juste.
Ouais. Comment ça s'est passé, Jérôme? Raconte-nous ces deux tours de piste.
Oh, c'est un jeu d'enfant. J'aurais pu continuer, mais en fait, j'ai envie de faire plaisir à mon équipe. Ils se sont déplacés, ils sont venus de loin, il fait beau, qu'ils profitent de faire des tours de piste.
T'es devenu collectif maintenant?
Par la force des choses, oui. Ouais, je suis obligé. Avant, j'aurais pensé qu'à ma gueule.
D'après toi, est-ce que le tartan a pris du plaisir avec ton pied gauche?
Je sais pas. Non, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas évident quand même. Hein. Tu vois, c'est pas évident de courir à cette
aux aurores. Il est
aux aurores. Je me suis levé à 6 heures pour m'entraîner déjà, m'échauffer. Mais c'est pas facile. En tout cas, t'es pris par ce record du monde en fait. Tu vois, c'est l'adrénaline. Ça me rappelle un peu. Toute proportion gardée bien sûr, mais quand on faisait de la compète, et là il y a quelque chose à aller chercher, même s'il a été battu il y a quelques heures déjà. T'as envie de faire de profiter puis de pousser, tu vois. Donc non, c'était très agréable à faire.
C'est ton record du monde.
Je pense que je dois être mis en avant. Je dois être mis en avant avec celui qui a fait le record du tour de piste à une minute, je crois.
Oui, je pensais que t'allais tenter de te battre quand même.
Non. Non, parce qu'au bout d'une minute, j'étais à 200 mètres. Je dis, mais comment il a fait?
Alors, Jérôme, évidemment, Rotten sans flamme du lundi au vendredi de 18h à 20h sur RMC avec Jean-Louis Tour. Ouais. L'une des meilleures, en tout cas, avec les grandes gueules du sport.
Bon, après, on n'a pas peur des mots, on est la meilleure. Mais c'est bien, déjà, ce que fait le sport. Vous êtes le week-end, donc je vous compte pas.
Mais je te propose de vivre un débat avec nous, si tu as quelques minutes, parce que dans quelques instants, nous allons parler de Didier Deschamps.
Ah, ça tombe bien.
Un sélectionneur doit-il être sous pression?
Je sais pas, moi, il débat. Parle plus, donc.
C'est notre question. Bah, justement, toi qui as été son coach, est-ce que. Enfin, lui qui a été. Toi qui as été son joueur,
ouais, tu peux dire que j'en ai fait un champion du monde.
Ouais. Est-ce qu'il a besoin d'être sous pression pour performer? Tu nous diras ça dans quelques instants. Sachez qu'à 11h30, il y aura le débat caché, comme d'habitude. Mais vous le savez aussi, un magnifique cadeau à gagner. C'est la dernière chance pour vous inscrire pour remporter la totale du coffre Euro 2024. Vous pouvez être tiré au sort, vous envoyez à partir de maintenant coffre au 732-16, coffre au 732-16. Il est juste à côté de moi, ce coffre, et je vais l'ouvrir dans quelques instants avec l'un d'entre vous. C'est vraiment votre dernière chance et il y a de très très beaux cadeaux à gagner. James Cameron a dit un jour, oui, je cite James Cameron dans cette émission, il a dit un jour, la pression nous rend meilleurs.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Le président de la Fédé, Philippe Diallo, est sorti du silence. Ah, il a fixé l'objectif pour l'Euro. La France fait partie des favoris, dit-il, donc l'objectif, c'est le dernier carré. Alors du coup, question suivante, que se passera-t-il si Didier Deschamps n'atteint pas cet objectif? Eh bien, rien.
Est-ce que quelqu'un souhaite jouer ce soir un collier d'immunité individuel?
La victoire, c'est la chose la plus importante pour que la fête soit vraiment malienne.
Est-ce que quelqu'un d'autre aurait trouvé l'arme secrète de la réunification?
Levez des doutes. Si vous en avez, je ne sais pas si ça vous allez les lever.
Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.
Si vous ne me prenez pas pour une galinette cendrée un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil.
Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, à la fin, il n'en restera qu'un.
Et ce sera forcément Didier Deschamps, celui qui restera. Ce soir, les Bleus affronteront le Canada pour le dernier match de préparation avant l'Euro 2024. Et comme c'est de coutume, vous l'avez entendu, avant une grande compétition, le président de la Fédération française de football porte la bonne parole et fixe le cap pour Philippe Diallo. L'objectif minimum à atteindre, ce sont les demi-finales. Mais dans cette interview donnée à l'équipe cette semaine, le président de la 3F assure que Didier Deschamps, sous contrat jusqu'en 2026, ne serait pas menacé s'il n'atteignait pas le dernier carré. Et voici son principal argument massu, j'ai envie de dire. À l'Euro 2021, certains observateurs disaient que l'élimination en huitième de finale était un échec et qu'il fallait changer de sélectionneur. Un an après, on jouait la finale de la Coupe du Monde. La musique qui fout les jetons, et cette question. Un sélectionneur doit-il être sous pression? Oui ou non? Fred Weiss?
Non.
Olivier Giraud?
Non.
Cyril Linette?
Oui.
Christophe Cessieux?
Non.
Jérôme Rotten? Oui ou non?
Non.
Non. Cyril Linette est tout seul sur cette question, mais il sait très bien se défendre. Avant de débattre, on va retrouver l'un des suiveurs des Bleus, c'est Valentin Jamin en direct de Bordeaux, le lieu du match ce soir, France-Canada. Salut Valentin.
Salut les grandes gueules du sport, salut à tous.
C'est vrai, Didier Deschamps, c'est assez rare pour le souligner, aborde cette compétition plutôt sereinement, sur son cas personnel en tout cas.
Oui, c'est ce que répète ces derniers jours le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, tu en as parlé. Il n'y a vraiment aucune crainte pour Didier Deschamps, ni avant cet Euro, ni après.
Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que le contrat de Didier Deschamps va jusqu'en 2026. Et j'ai eu l'occasion déjà de me prononcer à ce sujet-là. Il n'y a aucune raison qu'il puisse y avoir une rediscussion sur le contrat qu'il a.
Ce contrat jusqu'en 2026, il a été signé sous l'ancienne présidence, Noël Le Graët, après le Mondial 2022. Prolongation annoncée d'ailleurs par Didier Deschamps lui-même à l'époque, bien négociée. Deschamps ne devrait donc pas trembler, comme après l'Euro 2020 que tu as évoqué, élimination en huitième de finale contre la Suisse. Et la FFF n'avait absolument pas flanché, même si le sélectionneur, lui, avait un court instant hésité sur la suite. En tout cas, il y a bien un cap tout de même au niveau résultat fixé par Philippe Diallo, le président de la Fédé.
J'aurais trois réponses peut-être. Celle budgétaire, c'est de dire qu'on est en quart de finale. Celle que j'ai fixée publiquement et à l'équipe, d'être en demi-finale. Et puis celle de l'espoir secret, qui est de gagner.
Même si donc on l'a bien compris, dans tous les cas, cela ne met pas du tout en péril l'avenir du patron des Bleus.
Ok, l'espoir secret, c'est de gagner. Évidemment, c'est plus secret car ça vient d'être dit sur RMC. Merci beaucoup, Valentin Jamin. Un sélectionneur doit-il être sous pression? Il est le seul à dire oui. Mais Cyril Linette, est-ce que tu veux écouter les arguments ou tu veux prendre la main tout de suite?
Non, je vais prendre la main.
Vas-y, pourquoi?
Mais non, mais parce que, enfin, je veux dire, on se demande qui est le patron quand même entre Philippe Diallo et Didier Deschamps. Pour moi, ça résume la gouvernance du sport français. La gouvernance du sport français, c'est de la politique. Philippe Diallo est un politique. Il est en train de faire campagne pour être réélu président de la Fédération française de foot. Il se débrouille plutôt bien, d'ailleurs, Philippe, depuis qu'il a pris son mandat sur pas mal de sujets. Mais à un moment donné, moi, je préfère le management à la politique. Et la position, pour moi, de Philippe, ça change pas grand-chose sur le fond. Enfin, Didier Deschamps est un remarquable sélectionneur et on sait tous qu'il va continuer. Mais la position que j'aurais préférée de la part de Philippe, c'est qu'il soit cohérent entre son objectif sportif et puis les conséquences. Quand on met la pression sélectionneur ou quand on enlève la pression sélectionneur, on enlève aussi la pression à son groupe de joueurs parce que c'est les mêmes en fait. Le sélectionneur et les joueurs, c'est la même chose. Donc j'aurais souhaité que Philippe dise l'objectif. C'est la demi-finale.
Et après, on verra.
Et qu'à la relance, oui, mais si on n'atteint pas la demi-finale, non, ils fassent une réponse qui ne mette pas un désordre considérable. Ils disent, écoutez, compte tenu de la carrière de Didier Deschamps, de son parcours, de son contrat, il est très probable ou très improbable qu'on soit amené à changer. Mais néanmoins, si on se plante à l'euro, on aura une discussion. Au moins qu'il se ménage ça. S'il se ménage ça, c'est une vraie porte de sortie. Il est dans un rôle de manager et il ne déstabilise pas l'équipe pour autant.
Qu'est-ce que vous avez à répondre là?
J'adore ce que tu viens de dire, Cyril. Ça illustre parfaitement l'infantilisation qu'ont les organismes en dehors du sport pour les sportifs. C'est-à-dire qu'en gros, on est en train d'expliquer que Didier Deschamps, il n'est pas capable de se mettre la pression tout seul. Qu'il n'est pas capable de faire les choses bien que tout seul. Qu'il faut forcément lui mettre la pression pour qu'il fasse des choses, des performances. Je pense que c'est une erreur, et c'est une erreur majeure dans le sport français, et principalement dans le sport français. Les dirigeants sont au-dessus de tout, les sportifs sont un peu neuneux, et si on ne leur met pas la pression, ils n'ont pas compris qu'il faut gagner.
Mais ça
m'ennuie un petit peu.
Non, c'est pas ça, c'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, je pense que Didier est tout à fait capable, et l'équipe aussi, mais le président de la Fédé, c'est quand même le grand patron. Il peut avoir un discours où son ambition est corrélée aux décisions qu'il peut prendre derrière. Ça ne les rend pas infantiles pour autant.
Il y a une différence entre pression et sérénité. Donc la sérénité, c'est ce qui est le plus important. Pourquoi tu veux mettre la pression sur un mec qui t'a eu des résultats, qui est un gagnant né? qui va faire le taf.
Oui, mais sérénité et relâchement, là aussi, la frontière est ténue.
Oui, mais sans tu. Alors là, c'est ténu, je suis d'accord, sauf que là, c'est antinomique. Entre sérénité et pression, c'est clairement antinomique.
Mais Didier,
je ne vois pas comment on pourrait partir sur. On va mettre la pression sur Didier Deschamps. En gros, le mec n'a jamais rien fait. C'est un cadet qui vient de découvrir le sport de haut niveau.
Didier, tu ne vas pas lui mettre la pression, tu ne vas pas non plus lui ôter sa sérénité. Par contre, en tant que président, tu peux, au moment où tu abordes l'euro, tu peux mettre globalement sur toute l'équipe de France.
Donc c'est juste sa communication.
Un cadre.
Donc c'est juste un terme de communication.
Oui, mais c'est super important.
Donc tu penses que nous sommes tous suffisamment bêtes pour pas comprendre. Que on sait qu'ils veulent gagner et qu'on discutera forcément quoi qu'il arrive après si ça se passait mal. C'est le sport de haut niveau et tout le monde est au courant.
T'as eu du mal avec la pression un peu, on a l'impression, Fred. Hein.
Pardon.
Dès qu'on parle de pression, ça te met dans tout.
Non, moi, t'inquiète pas, la pression, je supporte super bien.
Jérôme Olivier, la boule est réelle. Olivier.
Là, on parle d'un mec, ça fait. C'est exceptionnel, ça fait 13 ans qu'il tient l'équipe nationale. Et en fait, 12. Je mets toujours l'année en plus. Ouais. Quand tu comptes, c'est comme les jeux, il y a une année en plus. Il est intouchable aujourd'hui. Et il l'a été, il l'a eu cette pression. En fait, la pression pour un sélectionneur, elle est automatique. Elle est automatique quand tu prends une sélection. Déjà, la pression, tu l'as parce qu'il faut que tu sois celui qui soit choisi. La deuxième chose, il faut que tu crées un groupe. Et quand tu crées le groupe, c'est quand tu viens d'être sélectionneur, c'est là que tu te prends toute la pression sur la tête parce que automatiquement tu seras critiqué sur le groupe que tu vas composer. Je ne veux pas vous rappeler Aimé Jacquet, hein, et Didier Deschamps a eu ça. Et la troisième chose, quand ce sélectionneur arrive avec cette pression qu'il a, c'est qu'il doit gagner le plus rapidement possible pour ne pas être critiqué sur ses choix. Le bon choix d'un sélectionneur, c'est celui qui te fait gagner. Et Deschamps l'a fait, il a passé ce cap-là. Ouais. Une fois que tu as passé ce cap-là, qu'est-ce que tu as ? Eh ben, les joueurs ne peuvent plus te critiquer non plus.
Donc tu respectes le contrat quoi qu'il arrive, même si après tu te plantes.
On va plus loin. C'est-à-dire qu'après, à partir de là, le sélectionneur il a ce choix qu'il ne peut plus être remis en question.
Ça s'appelle l'immunité.
Exactement. Mais l'immunité, c'est la confiance des joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'entend bien avec ses joueurs. Ses joueurs ont compris que c'est avec lui qu'ils veulent gagner. Il y a une espèce de. T'as vu l'arrivée à Clairefontaine ? C'est pas du fake, hein. Il y a une vraie complicité avec.
Il y a des caméras de la Fédé.
Non. Je peux te dire, je sais quand ça triche et quand ça triche pas. Et la troisième chose, tu l'as dit de manière très juste, Cyril, on est en période d'élection. Va toucher un mec qui a 13 ans et qui a déjà tout gagné. Et toi, tu viens d'arriver.
Mais Didier, je pense le meilleur manager du football français. Donc la question n'est pas là. Moi, je me positionnais plus à la place de Philippe Diallo. Je pense que Philippe, à un moment donné, prendra un peu une position de patron. C'est peut-être de la communication, mais la position de patron pour fixer un objectif un peu plus clair à l'équipe de France.
Avoir suffisamment confiance en soi pour justement ne pas être tenu à être que dans la communication.
Je vais te donner un nom pour te poser cet exemple et là où est aujourd'hui Deschamps. Claude Onesta. Pendant 4 ans, il a pris la foudre jusqu'en 2005, il gagnait rien. Le moment où il a pris le contrôle, il a gagné, il a construit son groupe et il pouvait plus être discuté. Tu crois qu'un président allait lui dire tu vas t'en aller ? Non, c'est là les positions de force.
Surtout pas dire tu vas t'en aller.
Voilà,
Jérôme Rotel, ton point de vue.
Mais en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre parce que je suis un peu entre les deux. Je trouve qu'il y a la communication du président de la Fédé, elle est pas bonne dans tous les cas. Parce que à nous dire que quoi qu'il se passe, Didier Deschamps sera sélectionneur à la Coupe du Monde, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que je vous renvoie à il y a un peu plus de 10 ans, maintenant 15 ans, quand il y a eu Nice-Na, ce qui s'est passé, plus récemment à l'Euro 2021. On peut pas dire que en termes de résultats et en termes d'image, ça a été nickel. On a vu les problèmes avec Karim Benzema, avec Olivier Giroud, avec des gens dans le groupe aussi qui s'entendaient pas forcément. Et pourtant, on avait le meilleur des sélectionneurs là-dessus, le chef d'orchestre. Je suis bien placé pour le savoir, pour gérer les égos d'un groupe, pour vraiment dégager une force collective. C'est Didier Deschamps le meilleur et il l'a montré depuis maintenant plus de 10 ans. Mais ça lui a échappé en 2021 parce que les résultats n'étaient pas là. Et quand les résultats sont pas là, tout le monde le sait, Fred et Olivier pareil, même si c'est des sports différents, mais c'est des sports co quand même. Quand les résultats sont pas là, tu ressens la pression à l'intérieur du groupe, les tensions, l'animosité, parce que tout le monde, même si sur un groupe de 25, les 25 ne s'entendent pas parfaitement. Et donc là, c'est difficile pour le sélectionneur après plus de 10 ans de garder la main sur ce groupe et puis pour repartir sur une autre compétition si ça se passe pas bien. Donc c'est pour ça que intérieurement, je sais très honnêtement que Didier Deschamps, s'il va pas au bout de l'euro, peut-être qu'il y aura une décision de prise de sa part. Il n'aura pas besoin de la pression du président de la Fédé.
La discussion aura lieu si ça se passe mal.
C'est lui qui nous dit. Mais automatiquement, et plus, et après je donne la parole à Christophe bien sûr, mais plus pour parler de Didier, comment tu voudrais qu'il nous explique que s'il y a un échec, et pour moi un échec c'est de ne pas aller au bout de l'Euro. Ah, c'est tout. Et c'est la seule compétition qui lui a échappé. On a fait la finale en 2016. Ça a été plus compliqué en 2021. On a fait une finale de Coupe du Monde. Mais là, je renvoie le président de la Fédé, Monsieur Diallo, devant ses responsabilités. On l'a fait la finale. Il n'y a pas de problème. Mais dans quel état de l'équipe? Comment elle a fonctionné, l'équipe? On peut pas dire que c'était une grande équipe de France avec beaucoup de réussite comme d'habitude. Si c'est le cas aujourd'hui, si on mise tout sur la réussite, je vais te dire qu'à l'Euro, on va passer à la trappe. Et donc, pour repartir sur une nouvelle dynamique, pour la Coupe du Monde, il faudra changer de sélectionneur. Ça, c'est mon avis.
Ça, c'est une bonne question. Ça veut dire qu'on se pose toujours la question, changer, mais changer pourquoi?
Parce que t'as un successeur aujourd'hui. Autant, je suis d'accord avec toi, Olivier, il y a quelques années, on se posait la question, on disait, mais si Didier Deschamps s'en va, on met qui? Ok, aujourd'hui, il y a Zinedine Zidane.
Celui qui met le plus la pression sur Deschamps, c'est Zidane, qui n'a toujours pas de club et qui est toujours en attente, en réserve de la République, et qui est une sorte d'ombre derrière Didier Deschamps. Et effectivement, si celui-ci se plante à 7 euros, forcément, son nom va revenir sur le devant de la scène.
Sujet hypersensible, parce qu'on rappelle quand même que Noël Le Graët est tombé en partie sur une réponse un peu agressive lorsqu'on lui a posé la question sur Zidane. La Fédé servait de paravent entre Deschamps et Zidane. Il y a quelque chose d'un peu surprenant.
Vous savez, c'est aussi marqué des points. Ça veut dire qu'à un moment, Zidane apparaissait comme quelqu'un d'évident en équipe de France. Deschamps, c'est quelqu'un qui anticipe toujours. Et il a toujours anticipé ce qu'il a fait par rapport à l'aura de Zidane, qui, lui, de manière automatique, est toujours plébiscité. Deschamps a toujours été un travailleur. Pour être une star dans l'équipe de France, ça a été un travailleur. Pour être une star en club, ça a été un travailleur. Ouais. Pour devenir sélectionneur, il a anticipé. Il a déjà anticipé. Et là, la seule anticipation qu'il avait, c'était de gagner. Et il a gagné. Donc aujourd'hui, le débat s'équilibre entre les deux. Et que oui, Zidane est certainement le futur sélectionneur. Mais aujourd'hui, on ne peut que respecter Deschamps.
Ouais, mais la question se posera, tu sais, Olivier. La question se posera si ça se passe mal. C'est de la communication dans le sens inverse. Et c'est là que je suis d'accord avec le président de la Fédé. C'est lui qui décide, en gros. Et on lui laisse le choix. C'est un bon choix. Parce que Deschamps est suffisamment intelligent pour dire à la fin, je me suis planté, je m'en vais.
Christophe, Philippe Diallo connaît bien l'exercice médiatique, on se posera la question forcément après l'Euro.
Forcément, en fonction du résultat à 7 euros, tu te poseras la question. Si tu vas au bout, il n'y aura pas de sujet. Effectivement, si tu te fais bouger, que tu te qualifies difficilement pour les phases finales et qu'ensuite tu t'arrêtes en quart de finale ou en huitième, la question reviendra. Et je suis sûr que Jérôme, le premier, sera prêt à dégainer.
S'il gagne, il peut vous faire une sortie magnifique aussi.
Bah s'il s'en va, qu'il prenne Diallo avec lui, hein, parce que je crois qu'on n'a pas gagné au change entre Diallo et Le Graët.
Bon, écoutez, Jérôme Rotten, vous le savez,
c'est dur.
C'est du lundi au vendredi, de 18h à 20h.
C'est vrai que c'est dur. On l'a vu pour les JO, et il s'est bien démerdé, Diallo. Hein, il a bien ouvert sa bouche.
Non mais là, je suis d'accord.
Le mot de la fin.
Non mais il y a des choses sur Philippe Diallo est arrivé quand même dans des conditions un petit peu particulières. Je trouve que sur pas mal de sujets, il s'en est bien sorti. Aujourd'hui, effectivement. Pour moi, il y en a quelques-uns. Je dois faire court. Il y a quand même ce sujet JO et ce sujet Euro où je trouve que voilà, il pourrait adopter une posture un peu plus de patron.
Ok, je reprends la main. Voilà pour ce débat. Présent. Merci Jérôme d'être venu nous voir dans les grandes gueules. C'était un
bon
plaisir.
Courage, bravo. Et belle émission.
T'as vu comment ça débat ici?
Vous êtes vraiment du bon boulot.
Alors,
le week-end.
Tu veux pas bosser le week-end avec nous?
J'écoute tous les week-ends.
Bah, merci, mon Jérôme. Et bravo pour ton record aussi.
Le record
RMC. C'est un grand moment maintenant pour vous les auditeurs. C'est l'heure du coffre RMC. Et nous allons accueillir Mehdi, qui est notre grand gagnant ce matin. Salut Mehdi.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
On va très bien, toi aussi j'imagine. Tu es un grand gagnant, tu es très, très heureux.
Très heureux, je suis comme un fou.
Alors Mehdi, ton boulot n'est pas terminé. Je peux t'annoncer que, déjà, si tu le souhaites, tu viens de remporter un barbecue à gaz Weber d'une valeur de 700 euros. Mais tu peux décider aussi d'ouvrir le coffre RMC. Et là, je te propose soit la totale Euro 2024, soit une enceinte connectée à LED. Que fais-tu, mon cher Mehdi?
On va tenter le coffre.
Tu tentes le coffre?
C'est parti.
Toi, t'as déjà un barbecue, c'est pour ça?
Exactement.
Ok, alors on tente le coffre et on compose le code maintenant. Le coffre RMC, Mehdi a décidé d'ouvrir le coffre pour peut-être remporter la Total Euro 2024. J'ouvre l'enveloppe, Mehdi. Est-ce que tu es prêt, mon cher Mehdi ?
Je suis prêt.
Mehdi, tu viens de remporter la Total Euro 2024. Bravo, Mehdi.
Ah, merci beaucoup, hein, j'ai bien fait. Hein.
Un vidéoprojecteur Samsung, son écran de projection sur pied portable, un barbecue électrique et fumoir Ninja, un fauteuil de la 3F de la marque Koenigs, une machine à glaçons et la mascotte de l'Euro 2024. Ah, tous parfait, ces cadeaux ça. Sont pour toi, mon cher Mehdi.
Bah, merci beaucoup, franchement, merci beaucoup, je vous remercie. J'y croyais pas, c'est incroyable.
Bravo à toi. Bah oui, tu as tenté ta chance et tu viens de tout remporter. Alors mon cher Mehdi, tu vas magnifiquement regarder l'Euro 2024, mais tu vas aussi écouter RMC, on est d'accord ?
Exactement, bah j'écoute tous les jours déjà, donc on va continuer.
Merci Mehdi, et à bientôt sur RMC. Bravo en tout cas pour cette prise de risque et ces magnifiques cadeaux pour toi. Tu as osé ouvrir le coffre RMC. Merci à tous d'avoir joué, chers auditeurs. On se retrouve dans quelques instants pour le débat gâché. Ça va plaire au GG, c'est un événement d'actualité. Et ça se passe entre deux Français. A tout de suite sur RMC, je ne vous en dis pas plus.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h32, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Fred Weiss, Cyril Linette, Olivier Giraud en direct du stade de Charletti pour le record du monde RMC. D'ailleurs, dans quelques instants, la juge officielle du célèbre Guinness World Record sera avec nous. On a plein de questions à lui poser car forcément, ça nous fascine, hein, le Guinness Book des records, vous connaissez tout ça. Eh bien, nous aurons une juge officielle avec nous dans quelques instants dans les grandes gueules du sport. D'ailleurs, un point avec Pierre Thévenet sur ce record du monde. Où en est-on, Pierre ?
Il reste moins de 2h30. 21h32 de course et c'est que du bonus, on le rappelle, le record a été battu, les 350 km ont été parcourus, on est désormais à 372 km parcourus, on se rapproche de cette barre des 1000 tours, 931 tours réalisés, l'objectif c'est d'aller à 410-415 km d'ici à la fin du record à 14h, ça continue à avancer, on voit la team RMC qui commence à se préparer tout doucement, ce seront eux qui termineront ce relais et toujours cette attention toute particulière dans la transmission du relais, les relayeurs qui s'arrêtent presque, qui se le passent à deux mains tout doucement, comme un objet précieux pour surtout pas faire tomber ce témoin, car on le rappelle, s'il tombe dans les deux dernières heures, même si on a battu les 350 km, le record ne pourrait pas être homologué.
Allez, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Réagir sur l'émotion, sur l'instantané, réagir avec le cœur, telle est votre mission. Le guet-apens du jour, mes GG. C'est ça.
Accrochage, et oui, entre les deux Alpines. Donc, décidément, c'était un premier tour absolument catastrophique. Hein. La roue arrière gauche de la monoplace d'Ocon est montée sur la roue avant droite de la monoplace de Gasly. Donc, celle d'Ocon a bondi vraiment assez haut. Hein. Elle est retombée heureusement sur ses roues. Et puis, on a entendu Pierre Gasly faire ce commentaire. Mais qu'est-ce qui lui a pris ? Pourquoi il a fait ça ? Bon, on savait déjà que les deux garçons ne passaient pas leurs vacances ensemble hein, depuis longtemps. Je pense que c'est encore moins à l'ordre du jour.
Ça, c'est sûr.
Il y a deux semaines, cet accrochage entre Esteban Ocon et Pierre Gasly scellait définitivement la fin de l'aventure du premier nommé chez Alpine. La direction était furieuse après son pilote. Elle avait même envisagé de le suspendre pour le Grand Prix du Canada qui va se disputer aujourd'hui. Finalement, Esteban Ocon sera bien là, mais plus pour très longtemps, car lundi, dans un communiqué, Alpine annonçait la fin de la collaboration avec le pilote normand. À l'issue de la saison, Pierre Gasly, de son côté, s'agace d'être associé à cette histoire.
Il n'y a rien à voir entre les relations d'Esteban et de l'équipe. C'est quelque chose qui sont gérés entre eux et c'est pour ça que j'étais pas du tout impliqué sur tout ce qui a pu se passer depuis la semaine dernière. J'ai fait ma vie de mon côté et c'est vrai que c'est un peu ennuyant de voir mon nom toujours revenir dans les discussions parce que Esteban a sa relation avec l'équipe, j'ai ma relation, on a deux carrières différentes, on n'est ni jumeaux ni... on fait chacun notre route, chacun notre carrière et je suis en rien impliqué dans le fait que l'équipe ait pas voulu renouveler avec Esteban.
Et va tout de même falloir composer entre les deux. Rappelons qu'il reste 16 Grands Prix à disputer pour Alpine avec ses deux pilotes français. Notre question, notre débat, la fin de saison peut-elle tourner au fiasco ? Oui ou non ? Christophe Cessieux ?
Non.
Non. Cyril Linette ?
Non.
Fred Weiss ?
Oui, c'est pas déjà un fiasco ?
Ben voilà.
Ok, Olivier Giraud ?
Ah oui, c'est déjà fait.
Bah donc oui. C'est non. Elle a déjà tourné. C'est pas. Elle va-t-elle tourner au fiasco?
Ah bah ça peut empirer.
Eh bah oui.
Ah. C'est ça.
Ça peut être
question.
De pire en pire. Ouais,
ça peut être de pire en pire. Est-ce que les deux pilotes peuvent?
Ce que je viens d'entendre là, c'est me fait dire que ça va empirer.
Ok, bah prends la main. Et dans quelques instants, on accueillera Jean-Luc Roy.
Le fait qu'ils disent qu'il y ait deux carrières différentes, ça me gêne énormément. C'est-à-dire qu'on n'est pas chez on n'est pas chez Mercedes là, on n'est ni chez Red Bull où là t'as deux voitures qui roulent pour gagner. C'est-à-dire que le seul moyen de s'en sortir quand tu es une écurie qui veut monter, en plus écurie française avec deux françaises, c'est de s'allier et d'avoir des stratégies de course intelligentes. Ce qu'il nous dit là actuellement là, c'est que lui il fait son truc, il est dans la même écurie, il est de son côté. Déjà, soit c'est de la mauvaise foi, soit derrière il y a autre chose. Donc je peux te dire un truc, la saison, si tu sais lire entre les lignes, elle va très très mal se passer.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu penses que Gasly et Ocon vont se rentrer dedans, ça va faire une course de stock car jusqu'à la fin de la saison?
Je peux te dire que tout peut arriver.
Le seul souci, c'est que Ocon est un professionnel, c'est un pilote de Formule 1. L'année prochaine, il doit normalement signer chez Haas. S'il fait du stock car pendant les 16 derniers Grands Prix, c'est fini pour lui.
Et Gasly n'est pas non plus au clair sur son avenir, donc non plus chose.
Exactement. Ils peuvent pas se permettre
C'est un gâchis énorme. On avait une écurie française avec deux Français à l'intérieur qui auraient pu dans une intelligence stratégique.
Ah, mais déjà ils s'aiment pas au départ. Déjà ils s'aiment pas au départ. Déjà tu n'as pas les meilleurs pour être ensemble, en fait.
J'ai vu Alonso faire gagner Ocon alors qu'il s'appréciait pas spécialement, mais l'autre c'est un professionnel, l'espagnol, et quand il a fallu retarder tout le monde pour faire gagner Ocon, il l'a fait gagner. Et là t'as deux Français. C'est une catastrophe parce que ça montre qu'en fait, les Français, on n'est pas terrible en termes de vision stratégique pour être à l'intérieur d'une écurie, à l'intérieur d'une équipe.
Christophe, tu crois qu'ils vont rester professionnels jusqu'au bout? Ça, c'est ta conviction.
Je pense qu'ils vont. Enfin, il y aura peut-être quelques débordements. Tu sais jamais s'ils sont à la bagarre pour aller chercher des points dans un Grand Prix. Je pense qu'effectivement, l'instinct des deux pilotes va prendre le dessus. Mais ça va pas être n'importe quoi. Ça va pas être un fiasco. Ça va pas être une bagarre à se rentrer dedans comme Senna et Prost ont pu le faire dans les années 80. À l'époque, t'avais un titre à aller chercher. Là, t'as rien, t'as pas grand chose à aller chercher. T'as quelques points, évidemment, mais ils peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi. C'est des professionnels aujourd'hui. Et s'ils veulent continuer en Formule 1, ils sont obligés de respecter les consignes de l'équipe, même si Ocon.
Tu crois vraiment qu'ils vont respecter les consignes de l'équipe, même déjà, juste avant, même quand Ocon n'était pas parti? Mais il les respectait pas déjà.
Mais je pense en partie qu'ils vont les respecter. On verra, mais il peut pas faire n'importe quoi.
Jean-Luc Croix, notre spécialiste Formule 1, est avec nous en direct dans les grandes gueules du sport. Salut Jean-Luc.
Oui, salut JC, bonjour à toute la bande.
Toi le spécialiste, est-ce que tu as très peur pour cette fin de saison? Enfin même pas cette fin de saison, cette deuxième partie de saison.
Bah oui, c'est carrément les deux tiers de la saison qui nous attendent. Il y a 8 grands prix qui sont déroulés, il en reste 16. Bah oui, honnêtement, je suis inquiet parce que on a vu les déclarations des uns et des autres. Le départ d'Ocon, il était acté. De toute façon, tout le monde le savait dans le paddock. Il recherchait une place ailleurs. C'est sa 5e année chez Alpine. Bon, la cohabitation avec Pierre Gasly, on le savait, serait délicate, douloureuse. Ils se sont déjà frictionnés, je rappelle quand même, au 3e grand prix de la saison 2023. C'était en Australie. Alors c'était un peu d'effet de course, pour être très honnête. Pierre Gasly, lors du 3e départ, était sorti de la piste, était revenu en piste, mais malheureusement, il vient taper qui ? Esteban Ocon, qui lui était lancé, et il y avait des gros points à prendre. Alors après, on nous a dit, on a fait assaut de communication du côté de chez Alpine, en disant, mais non, tout va bien, c'est les meilleurs amis du monde, on a même vu une vidéo dans l'avion, enfin, on en a fait des tonnes et des tonnes. Si tu veux, pour comparer un peu l'ambiance dans le team, est-ce que vous vous rappelez de la série Amicalement Vôtre, avec Tony Curtis et Roger Moore?
Ah oui,
évidemment. Et bah c'est un peu ça, parce que il y en a un.
Mais
qui
aujourd'hui
est un peu
c'est une série culte. C'est une série culte, Jean-Luc.
Voilà, exactement.
Mais en fait, ils étaient copains quand même.
Mais ça n'a duré qu'une saison. Mais série mythique, mais qui n'a duré qu'une saison.
Alors si vous avez 20 ans et que vous écoutez Jean-Luc Croix et nos grandes du sport, restez quand même avec nous. On va parler de l'avenir dans quelques
minutes. Tout le monde connaît le générique d'Amicalement Vôtre. Même toi, j'y sais, qui est né en 2005. Hein, même toi, tu le connais.
Je suis un bébé.
Tu veux qu'on le fredonne?
Vas-y.
Pas exagéré.
Tu peux y aller.
John Barry, musique de John Barry.
Jean-Luc, rapidement, est-ce que tu penses que, parce que c'était la non-crainte de Christophe Cessieu, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, Esteban Ocon peut jouer encore
plus? Il espère, Jean-Luc, je le connais, il a mauvais fond. Il espère que ça va partir en sucette, cette histoire.
Non, sincèrement, je n'espère pas. D'abord pour les deux pilotes, parce que c'est toujours extrêmement regrettable. Et puis pour l'écurie, la pauvre écurie, avec ses deux misérables points là après 8 courses.
Donc, tu veux dire l'écurie qui a commencé avec une voiture trop lourde. On parle bien de cette pauvre écurie.
Oui, hein. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, malheureusement. Oui, tu as raison. Il y a le point, mais il n'y a pas que l'embonpoint dans l'histoire. Hein. C'est qu'elle est ratée, cette voiture, et ils font ce qu'ils peuvent pour essayer de la faire avancer. Donc, c'est l'ambiance la plus terrible. Quand on se bat, tu évoquais, j'y sais tout à l'heure, Prost Senna, on se bat pour la victoire, on se bat pour un titre. Bon, bah, évidemment que ça exacerbe, entre guillemets, les personnalités. Et là, on se bat pour survivre et on se bat pour l'avenir. Parce que on a cru, alors là, je parle de la direction d'Alpine, sécuriser Gasly en disant Ocon ne sera pas là. Oh, la vilaine sanction. De toute façon, il se barrait. Donc, tout ça, c'est de l'enfumage. Hein. Il est évident que Ocon ne restait pas. Et on se demande si Gasly va rester. Bah, s'il a mieux, il s'en va aussi. Hein. Donc, là, il y aura place-tête au sein de l'équipe. Et puis, il faudra trouver autre chose. Mais
à mon avis, il faut que Luca Demeo, le patron de Renault, reprenne la main, ce qu'il a commencé à faire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Alpine, c'est Renault, qu'Alpine a été, il y a une relance commerciale d'Alpine, la Formule 1 est la traduction, je dirais, sportive et marketing de cette relance, et que le grand patron de Renault, qui fait du bon boulot, hein, à la tête de Renault, n'est pas très content, il a parlé de ne pas se désengager, de continuer, mais si j'ai bien compris, Jean-Luc, ils auront la même voiture l'année prochaine, hein, la même monoplace l'année prochaine, donc c'est plutôt 2026 où ça peut éventuellement s'améliorer.
Absolument, absolument. Le changement de réglementation, c'est 2026. On va encore boucher les trous en 2025. Donc, est-ce que Pierre sera là ? C'est la question, puisque Esteban, lui, n'y sera pas.
L'avenir n'est pas forcément rose, en tout cas immédiat chez Alpine, et on va suivre forcément les comportements des deux coureurs. Ce sera dès ce soir à partir de 20h le Grand Prix de Montréal avec aux commentaires Jean-Luc Roy, évidemment. Pierre Gasly partira à la 15e position, Esteban Ocon 18e.
Donc dernier, parce qu'en fait il a pris 5 places de pénalité, tu sais, pour l'accrochage.
18e au niveau du temps, mais évidemment dernier, c'est important de le préciser. Ouais. Merci beaucoup Jean-Luc Roy, on te retrouve tout à l'heure ce soir à 20h pour le Grand Prix de Montréal. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. La suite est fin avec une juge officielle du célèbre Guinness World Record avec nous sur RMC dans les Grandes Gueules du Sport pour parler de ce record du monde établi par RMC il y a quelques instants. Enfin, on espère établi, hein, évidemment. Il faut prendre les précautions oratoires, madame la juge. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h46, la dernière ligne droite des Grandes Gueules du Sport, toujours avec ce matin Cyril Linet, Christophe Cessieux, Fred Weiss, Olivier Giraud. Sachez qu'à partir de midi, les Paris RMC, toute la Dream Team des Paris, autour notamment de la rencontre France-Canada, dernier match de préparation de notre équipe de France avant cet Euro 2024. Et puis évidemment la finale de Roland-Garros entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev. Mais restons un instant sur le record du monde établi par RMC. C'est depuis hier, 14h, 24h de course en relais. Pierre Thévenet, où en est-on ?
Ça se passe toujours bien, on approche tout doucement de la fin. 2h15 encore de course à parcourir, 376 km, et on continue à faire tomber les chronos énormes. Quasiment tout le monde est au-dessus des 18 km/h par tour, alors qu'on le rappelle, il fallait faire en moyenne 15 km/h pour être dans les temps. C'est pour ça que le record a été battu déjà il y a un moment. On continue de se relayer, et Christelle Donnet sera la capitaine du prochain relais, les championnes d'Europe du marathon en 2014. Son équipe a l'air très motivée, ça risque d'envoyer. Là aussi, on risque de faire tomber des chronos sympas. 941 tours réalisés et 376 km. On rappelle le nouvel objectif autour de 410-415 km environ d'ici à 14h.
Et maintenant, il faut valider évidemment ce record du monde. Et c'est pour cette raison aussi que nous accueillons Madame la juge officielle du Guinness World Record, Anouk de Timari. Bonjour Anouk.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous en direct sur notre antenne. C'est un métier pas commun que vous faisiez, que vous faites, pardonnez-moi, vous allez nous en parler dans quelques instants. Mais déjà, comment se passe ce record selon vous ? Est-ce que on est dans les temps et comment vous le validez ?
Alors jusqu'ici tout s'est bien passé, le bâton n'est pas tombé, qui était la règle principale à respecter pour que ce record puisse être validé.
En même temps, vous êtes tourné à la piste là, hein. Vous savez pas s'il est tombé. Hein.
J'ai toujours deux témoins indépendants qui regardent, qui observent chaque passage de bâton, chaque passage de témoin, et en plus un chronométreur, une entreprise de chronométrage officielle qui a observé toute la tentative, et des caméras sur le stade aussi.
Alors c'est une tentative où RMC s'engageait à faire au moins 350 km. L'objectif est largement dépassé, mais c'est un record qui n'a jamais été établi en tout cas. C'est la première fois qu'il est tenté.
C'est un nouveau record. Effectivement, le record de la course en relais en 24 heures est un nouveau record.
Comment ça se passe pour que vous puissiez valider ou en tout cas autoriser un record et que justement des juges comme vous se déplacent sur un événement ?
Alors, on a quelques règles pour déterminer ce qui peut constituer un record. Il faut qu'il soit mesurable, quantifiable et vérifiable. Et donc, chaque année, nous avons des milliers de nouveaux records qui s'établissent.
Est-ce que vous répondez à toutes les demandes ? Parce que, par exemple, il y a d'ailleurs une des personnes, un des concurrents, un des sportifs qui a déjà réalisé un record. C'était le marathon en costume trois pièces, je crois. Ça vous fait rire, les GG ? Bah oui, ça existe. Qu'est-ce qu'il faut justement pour que vous puissiez accéder à une demande ? Parce que parfois, vous avez des demandes farfelues. Vous prenez tout ou pas ?
Alors, on ne prend pas tout. Encore une fois, comme j'ai dit, il faut que ce soit vérifiable, mesurable et quantifiable. Et il faut que ce soit universellement... faut que ça puisse être universellement battu. C'est-à-dire que, voilà, on ne peut pas déterminer le record du marathon en costume trois pièces à Londres. Il faut que tout le monde puisse battre ce record.
Ok, il faut que tout le monde puisse battre ce record. Christophe Cessieux.
Guinness, vous avez un rapport avec Guinness qui fait de la bière en Irlande, parce que c'est intéressant.
À l'origine, voilà, donc dans les années 50.
En 1951.
Premier, voilà, alors le premier livre Guinness est sorti en 1955 et il a été créé par le managing director de Guinness Breweries.
D'accord.
Mais depuis les années 2000, si je ne dis pas de bêtises, nous ne sommes plus associés à la bière.
Ah bon.
Nous sommes une entreprise indépendante.
C'est pour ça que ce nom sonne bien.
Comment ça se passe pour devenir juge officiel du Guinness Book ? Forcément, on l'a tous en tête, c'est devenu un livre mondialement reconnu. Célèbre. Comment vous avez fait pour en arriver jusque-là ?
Alors, il y a un long processus de sélection suivi d'une formation qui s'étend sur plusieurs mois, qui couvre toutes les catégories de records qu'on est amené ensuite à homologuer en tant que juge.
Ok.
C'est quoi les records les plus dingues que vous ayez jugé ?
Auxquels j'ai participé personnellement.
Ou participé ou entendu parler.
La plus grande réunion de Schtroumpf qui s'est passée à Landerneau en mars de l'année dernière.
Okay. Donc vous avez compté Schtroumpf après Schtroumpf.
Voilà, exactement. On a compté tous les Schtroumpfs.
Il y en avait combien ?
Il y en avait plus de 2000, mais malheureusement, ce n'est pas un record qui a réussi.
Ouais, ça n'a pas Schtroumpfé, quoi.
Il leur manquait des centaines de
Schtroumpfs. Il manquait le grand Schtroumpf.
Ok, un autre record, on a envie de tout savoir avec vous, évidemment, Anouk.
Un autre record, alors un record sportif l'année dernière. J'ai homologué la plus longue distance parcourue à la nage dans une piscine à contre-courant en 24 heures.
Ok. Et il est établi à combien ce record ?
Il a été établi, si je ne dis pas de bêtises, à plus de 100 km en 24 heures, donc à la nage.
Est-ce que ça vous occupe tous les week-ends ? Est-ce que tous les week-ends, vous êtes sur un site différent ? Là, aujourd'hui, on est au stade Charletti. Est-ce que vous allez comme ça, de stade en stade ou d'événement en événement ?
Alors, on est 60 juges dans le monde. On a 5 bureaux dans le monde. Donc, voilà. Que ce soit à Dubaï, New York, Tokyo ou en Chine, on a des équipes sur place pour aller vérifier tous les records qui se passent en permanence dans le monde entier.
Justement, la question, c'est votre métier à plein temps, ça ?
C'est pas une question auquel je vais répondre là à la radio avec vous, mais
il pose toujours des questions touchy, hein, on le connaît, Fred Weiss.
Il pense qu'à la thune.
Non, mais c'était pas pour savoir.
Non,
bien sûr. Combien vous gagnez ?
Non, mais c'était de savoir si vous faites ça toute la semaine.
Ouais, c'est ça en gros.
Pas tout le temps.
Comme je vous l'ai dit, on a des records qui se passent dans le monde entier et on est 60 juges. Donc on se répartit les records dans le monde entier.
Et quand c'est en France, forcément c'est avec vous que l'on traite ou pas forcément ?
En règle générale, oui, si je suis disponible, c'est avec moi.
J'ai quand même envie de parler de gros sous. Est-ce que ça coûte de l'argent de battre un record ?
Encore une fois, c'est pas une question à laquelle je vais répondre à la radio.
Ok. La réponse est donc oui. Ça coûte un petit peu d'argent, oui. Mais on ne connaîtra
mais
pas le montant.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a plus de 50 000 candidatures de records chaque année. Et nos équipes passent leur temps à les vérifier. Et c'est un travail qui en majoritairement est fait gratuitement.
Vous vous occupez de la France principalement ou pas ?
Oui.
Vous pouvez être un petit peu partout.
Mais je suis aussi en Espagne, en Belgique, en Suisse, en Allemagne.
Bon, merci d'avoir été avec nous dans le studio RMC, studio de fortune, mais magnifiquement installé pour profiter du spectacle et du record du monde. Merci d'être venu nous voir, parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit le Guinness Book. Donc merci d'avoir été avec nous, Madame la juge Anouk de Thimary. Et soyez sympa, on valide, hein, évidemment, on valide. Ouais, mais tout est fait sous contrôle.
Le problème, c'est qu'il y a Arthur Robert qui va bientôt s'élancer. Moi, j'ai très peur qu'il fasse.
Ça peut lui glisser des mains.
Dans nos
il n'était pas bien, il n'avait pas commencé à courir encore.
Oui, le record est établi.
Voilà.
Maintenant, on essaie
Non, au bout de 24 heures.
Ah ben, c'est ça qui nous inquiète,
bien sûr. Le record ne sera pas annulé.
Si
le bâton tombe, la tentative n'est pas disqualifiée. C'est-à-dire que nous nous arrêtons au nombre de kilomètres que vous avez parcouru jusqu'au moment où le témoin tombe.
Tout va bien.
Tout va bien. Mais encore c'est pas une fois, le record n'a pas été encore validé parce que j'ai pas pu vérifier toutes les preuves. Je vais devoir regarder la vidéo. Voilà.
Ah oui, les vous allez vous retaper là, les 24 heures du truc là.
Tout à fait.
Pendant 24 heures. Donc vous êtes encore là pendant 24 heures.
Ça fait partie de mon travail.
Waouh.
Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.
Bon courage
sur RMC et bon courage. Évidemment, on suivra l'évolution de ce record du monde tout au long de la journée sur RMC. Ça s'arrêtera à 14h. À partir de 13h, Christophe Cessieux, tu seras là évidemment.
Ah bah je serai là pour
l'un des temps forts de la journée.
Elle nous reviendra pour me dire c'est bon. Enfin, non, c'est demain. Demain.
Non, aujourd'hui. Lundi. Tout à l'heure.
Ah, mais non, je croyais que vous deviez regarder les 24 heures de trucs.
On a accéléré.
D'accord.
Quand même. Puis c'est pas une série Netflix non plus. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Sachez qu'il y a une après-midi de folie avec la finale à Roland Garros avec Eric Salio et Sarah Pitkowski. Federer. Face à Carlos Alcaraz. Oui, il faut que je
change. Ils n'ont pas fait oublier Federer. Hein.
Et également, n'oubliez pas, c'est un moment important. Il y a le match de l'équipe de France ce soir, France-Canada, à 21h15 en raison des élections européennes. Forcément, la rencontre a été un petit peu décalée. À partir de 19h45 ce soir, vous retrouverez tous nos spécialistes pour débriefer ces élections européennes. Merci beaucoup les grandes gueules du sport d'avoir été avec moi en direct du stade Charletti ce matin.
Merci Jean-Christophe. Merci,
Thierry Linette, merci. Christophe Cessieux, Fred Weiss, Olivier Giraud. On vous retrouve très vite évidemment mes GG samedi prochain à partir de 9h30. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre programme Les Paris RMC France-Canada ce soir, match de préparation à l'Euro 2024 et évidemment la finale de Roland-Garros. À tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 13h,
les Paris RMC.